Alors bonjour à tous, je m'appelle Thomas Preux, je vis à Vaux-en-Velin et je suis enseignant à l'école primaire à Vaux-en-Velin également. Je suis avec Marie-André Marsteau, le candidat de lutte ouvrière à l'élection législative dans la 7e circonscription, pour faire entendre le camp des travailleurs. Alors lutte ouvrière, c'est un courant que j'ai rejoint quand j'étais étudiant et que je me sentais, voilà, comme je me sens toujours, révolté par la violence de cette société capitaliste. Et c'est à l'époque où commençait une nouvelle guerre en Irak que j'ai rejoint ce courant politique. Et là, dans cette élection, suite à l'élection de Macron, qui annonce clairement la couleur et qui annonce déjà la liste des attaques qu'il prépare contre le monde du travail, eh ben, nous, on tient à faire entendre une opposition ouvrière, une opposition qui vienne clairement des rangs de ceux qui produisent toutes les richesses de cette société, avec l'objectif de ne pas se laisser faire pendant tout ce quinquennat d'attaque qui se prépare. Alors, au sujet du chômage, moi d'abord, j'aimerais souligner que le chômage, c'est vraiment le mal qui ronge toute la société. Il faut se rendre compte un petit peu de ce que ça signifie, se retrouver au chômage pour un travailleur. C'est vraiment à la fois, bien sûr, tomber dans la pauvreté, c'est aussi de l'isolement, c'est la perte du lien social. Plus rarement aussi, mais ça peut arriver, c'est la recherche de combines individuelles pour s'en sortir. Et là, ça peut être le début de la chute vers la délinquance. Alors, moi, j'aimerais quand même dire qu'aujourd'hui, même si on entend beaucoup de dirigeants politiques dire que c'est une priorité nationale, eh ben, il n'y a jamais rien qui a été fait de concret pour empêcher le grand patronat de licencier à tout va. Alors, ils nous font des mesures qui reviennent toujours à la même chose, c'est distribuer de grands cadeaux aux grands patrons en disant, puisqu'on leur donne de l'argent, ils vont embaucher, et c'est jamais ce qui se passe. Alors, vous vous souvenez sûrement que sous le quinquennat de Hollande, il y a 40 milliards par an qui sont de nouveau distribués avec le CICE. Alors, bien sûr, on nous dit que ça va créer de l'emploi, mais en fait, la seule chose dans laquelle les patrons investissent, le MEDEF a investi, c'est des pins. Ils ont fait des super pins, 1 million d'emplois. En fait, il y a zéro emploi qui ont été créés. Ils ont récupéré 40 milliards et voilà, c'est tout. Alors nous, ce qu'on met en avant par rapport au chômage, c'est que d'abord, il faut interdire les licenciements. Parce qu'il faut commencer par arrêter cette hémorragie. Et pour interdire les licenciements, c'est indispensable parce que l'emploi pour un travailleur, c'est vital. Et nous, on pense que l'emploi d'un travailleur, c'est bien plus important que les profits des capitalistes. Alors on veut interdire les licenciements et puis on veut aussi que le travail y soit réparti entre tous, parce que ça doit être un droit, le travail. Alors, on peut trouver ça terriblement violent, radical et tout ça, mais même en principe, même dans la Constitution, elle garantit un travail, elle est censée garantir un travail pour tout le monde. Alors moi, je suis pour qu'on répartisse le travail entre tous, et quand on y réfléchit un petit peu, c'est logique. Quand on y réfléchit, ce qui se passe dans une famille qui fonctionne, ou alors un exemple que je connais mieux dans une colocation, eh bien, il y a des tâches à faire, on se les répartit entre nous, et puis c'est ce qu'il y a de plus simple en réalité. Et il y a largement de quoi, quand on regarde les profits des grands capitalistes, il y a largement de quoi payer un emploi pour tout le monde, et bien entendu, sans aucune diminution des salaires, parce que tous les travailleurs, ils ont droit à un vrai travail, un emploi à plein temps, avec un salaire complet. Alors, d'abord, avant de répondre sur la question des étudiants, moi j'aimerais quand même parler un tout petit peu de la paupérisation. En général, j'aimerais dire quand même que la paupérisation, ça ne touche pas tout le monde. Parce que les grands capitalistes, pendant ce dernier quinquennat de Hollande, ils ont réussi, tout en pleurnichant d'ailleurs beaucoup, en pleurnichant la bouche pleine, ils ont réussi à augmenter leur patrimoine de 50%. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté de moitié leur fortune qui était déjà énorme. Alors ça montre quand même que des richesses dans la société, il y en a vraiment beaucoup. Je voulais juste, en quelques mots aussi, réagir sur ce que j'ai entendu de la part du représentant du candidat En Marche, parce que vous avez parlé des chômeurs, mais vous n'avez pas annoncé la principale mesure que vous préparez par rapport au chômage. Parce que Emmanuel Macron, il a clairement annoncé la couleur là-dessus aussi, et ce qu'il compte faire, c'est sucrer les allocations chômage à ceux qui refusent deux emplois. Alors ça, si c'est pas un grand cadeau pour les patrons, pour qu'on soit prêt à accepter n'importe quoi, des salaires misérables et se faire tout couper si on n'accepte pas l'emploi, eh bien vraiment, voilà, c'est en fait, ils comptent pas lutter contre le chômage, ils comptent lutter contre les chômeurs et c'est pas du tout la même chose. Ensuite, par rapport, peut-être, oui.
On va laisser finir, parce que vu qu'il y a pour les soucis du micro.
Sur la paupérisation, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les salaires, ils sont bien sûr beaucoup trop faibles, et ça touche aussi les étudiants qui ont un job. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la hausse des prix, le fait qu'aujourd'hui, quand on a payé son loyer, eh bien, il n'y a plus rien, de toute façon, pour finir le mois, qu'on soit étudiant ou qu'on soit un travailleur qui bosse depuis longtemps, eh bien, on n'a pas assez pour vivre. Et je pense que le minimum aujourd'hui, c'est 1 800 € net pour un travail à temps plein. Et aucun revenu doit être inférieur à ça. Je parlais de la hausse des prix. Il y a aussi quelque chose qui est particulièrement choquant, c'est que quand les prix montent, et là je pense en particulier au loyer que les étudiants ont bien sûr à payer, quand les prix montent, eh bien on n'a pas de montée des salaires, d'augmentation de toutes les pensions, de retraite et bien sûr les bourses pour les étudiants. Ça devrait être automatique. Bien sûr que nous, on est pour qu'il y ait un véritable contrôle des travailleurs sur tout ça, qui aient constaté eux-mêmes les augmentations des prix, les augmentations des loyers, et que toutes ces augmentations, ça se reporte sur l'ensemble des revenus par une augmentation des salaires, par une augmentation des bourses et des pensions de retraite. Voilà, nous, on est pour l'échelle mobile des salaires et on est pour qu'il n'y ait aucun revenu qui soit inférieur à 1 800 € net. Alors moi, j'aimerais d'abord rappeler que je suis candidat de lutte ouvrière et enseignant en classe de CP à Vaux-en-Velin. Alors bien sûr, c'est un sujet auquel on est souvent confronté, effectivement, partout, avoir des élèves à haut potentiel dans une classe. Et bien souvent, ça a été dit dans le reportage, que ce sont des élèves qui sont en souffrance, et d'ailleurs ce sont pas les seuls, il y a beaucoup d'élèves qui peuvent être en souffrance par rapport à leurs apprentissages. Et moi, ce que j'aimerais expliquer, c'est que ça fait quand même bien longtemps que les postes qui sont très importants pour accompagner ces élèves-là à l'école sont de moins en moins importants, parce que on a une grande hausse des effectifs scolaires. Par exemple, dans mon école, à Vaux-en-Velin, on est passé de 10 à 14 classes, et les quelques enseignants qui font partie de ce qu'on appelle le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, qui interviennent aussi bien avec les élèves en difficulté d'apprentissage et en particulier aussi avec les élèves à haut potentiel, eh bien, les quelques enseignants dont on dispose pour nous aider sont le même nombre aujourd'hui à 14 classes que quand il y avait 10 classes dans l'école. Alors si vous faites un petit calcul, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de temps pour accompagner les élèves qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est pas en voie de s'arranger, puisque un autre dispositif qu'on utilise beaucoup dans l'éducation prioritaire, vous savez que Vaux-en-Velin fait partie de l'éducation prioritaire, on a un enseignant supplémentaire par école dans nos écoles, et ça va être supprimé c'est ce que le ministère de l'Éducation se prépare à supprimer pour utiliser ces postes dans le cadre du grand coup de com qui a été fait sur la baisse du nombre d'élèves uniquement en classe de CP et peut-être de CE1. En tout cas, ils utilisent ces postes-là que les enseignants dans l'éducation prioritaire avaient beaucoup investi et qui étaient très utiles pour travailler en petits groupes, pour travailler avec les élèves en difficulté. Eh bien, ces postes-là, ils vont être utilisés pour cette opération de communication. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est important de signaler que les enseignants de Vaux-en-Velin, et puis moi-même bien sûr, on était en grève le 5 mai, justement pour dénoncer le manque de moyens dans les écoles de l'éducation prioritaire, à la fois le nombre d'enseignants, mais aussi tous les personnels qu'il y a autour et dont on a besoin pour accompagner les élèves. Et on a utilisé cette mobilisation du 5 mai, en particulier pour dire qu'on avait besoin justement de ces postes d'enseignants supplémentaires, mais aussi pour dire que, par exemple, à Vaux-en-Velin, on manque de psychologues scolaires. Et là aussi, bien sûr, le psychologue scolaire, moi j'ai déjà eu des élèves à haut potentiel dans ma classe, et c'est le premier avec lequel on travaille quand on a un élève qui est dans cette situation-là, et dans tout un tas d'autres situations d'ailleurs. Eh bien, on manque de psychologues scolaires. Faut savoir quand même, des fois ça étonne les parents d'élèves, mais dans les écoles, on n'a même pas une infirmière par école. On est quand même en train de parler de Vaux-en-Velin, des quartiers où il y a une situation sociale qui fait que les enfants, ils ont besoin de pouvoir être accompagnés par des infirmières quand il y a des problèmes de santé, quand il y a des enfants qui sont mal logés, des fois même des enfants qui mangent pas assez, qui mangent pas tout à fait à leur faim. Eh bien, on a besoin d'infirmières scolaires. Il n'y en a même pas une par école. Une infirmière aujourd'hui, ça intervient sur 10 écoles. Moi, quand j'entends dire sur ma droite que la France ne serait pas responsable de la situation, j'aimerais d'abord dire que je suis en total désaccord avec cette idée. Nous, à Lutte Ouvrière, notre solidarité, elle va bien sûr à toutes les victimes de terrorisme, hein, comme on a pu le voir encore à Manchester. Ce sont des crimes absolument abjects c'est assassiner aveuglément les gens, et bien sûr ça juge ceux qui commettent ça, parce que ça montre que ce sont non seulement des ennemis des classes populaires, des travailleurs, mais bien sûr des ennemis de l'ensemble de l'humanité. Mais pour autant, nous ne faisons pas partie, nous, militants et candidats de lutte ouvrière, de ceux qui veulent se joindre à une sorte d'unité nationale avec des dirigeants politiques qui sont en grande partie et même entièrement responsables de cette situation. Parce que déjà, on veut pas non plus se joindre aux pseudo-mesures contre le terrorisme qu'on peut entendre et qui reviennent parfois à stigmatiser une partie de la population, comme on a pu entendre récemment la déchéance de nationalité, voire entendre la gauche reprendre les mots de l'extrême droite. Et on ne veut pas non plus défiler avec certains dictateurs comme a pu le faire François Hollande après les attentats contre Charlie Hebdo. Et juste au sujet de ces responsabilités, il faut quand même se rendre compte que ces régions-là, l'Irak, la Syrie, qui étaient des régions assez développées, je rencontrais encore avant Vlin quelqu'un qui me disait il y a quelques dizaines d'années, c'est nous qui envoyons des manuels scolaires dans des pays comme la Tunisie, c'était des régions assez riches. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Il faut quand même se demander pourquoi aujourd'hui c'est le chaos en Irak, c'est le chaos en Syrie. Je parlais tout à l'heure des débuts de mon engagement politique. Moi, je me souviens quand même de ce que les pays impérialistes, les pays riches, ils ont été faire en Irak pour aller prendre le pétrole. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les pays riches, quand ils vont guerroyer dans ces pays-là? Sur qui ils s'appuient une fois qu'ils ont fait passer leur armée? Bien sûr qu'ils s'appuient sur des chefs de guerre pour contrôler les populations. Bien sûr qu'ils donnent des armes à des petits groupes locaux en leur disant vous vous débrouillez pour que dans cette ville il y a rien qui bouge et pour qu'on puisse prendre le pétrole. Alors moi, ça me rend hors de moi d'entendre aujourd'hui les dirigeants politiques qui sont responsables du chaos en Irak, en Syrie, prétendent qu'ils vont lutter contre le terrorisme. Mais c'est n'importe quoi. Ce sont des pompiers pyromanes. Voilà ce que c'est, des pompiers pyromanes. Et au sujet, bien sûr, de ces jeunes qui, malheureusement, comme vous l'avez dit, de toute origine et de toute condition sociale, vont aujourd'hui rejoindre les rangs du djihad, bah, là aussi, il faut quand même se poser la question, dans quelle société on vit pour qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans, sa perspective pour son avenir, ce soit d'aller prendre un fusil, de tuer des innocents? Non, mais ça juge la société dans laquelle on vit. Ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective pour la jeunesse en réalité. Et c'est justement pour ça que nous, à Lutte Ouvrière, ce qu'on cherche à faire, c'est à construire un parti qui représente les intérêts politiques des travailleurs et de dire qu'il y a un autre avenir qui doit être possible pour les êtres humains et qu'on doit défendre notre camp social et bien sûr proposer d'autres perspectives à la jeunesse que d'aller se ranger derrière des ennemis de l'humanité comme cela. Alors, avant de répondre sur la question précisément, moi j'aimerais quand même dire à quel point c'est important pour les travailleurs et en particulier les jeunes travailleurs d'avoir accès à un permis de conduire, parce que pour tous ceux qui font le parcours du combattant pour avoir enfin un emploi, ils savent bien que s'ils n'ont pas le permis de conduire, c'est tout le temps non systématiquement. Et ça, vous avez sûrement beaucoup de jeunes qui vous le racontent. Alors, ça pose tout un tas de problèmes par rapport au délai. On sait que par rapport au manque d'inspecteurs pour le passage au permis de conduire, les délais sont très longs. Il y a bien sûr un problème de coût pour tous ces jeunes qui travaillent pas encore et qui doivent financer leur permis de conduire. Et face à tout ça, eh bien encore une fois, on a un État qui se désengage complètement et qui abandonne complètement le terrain, parce que quand même il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais il y a la loi Macron. Ça me scie qu'on n'ait toujours pas parlé de ça depuis le début sur l'histoire du permis de conduire. La loi Macron qui commence à privatiser le passage du permis de conduire avec maintenant des postiers qui vont être appelés à participer aux examens du code de la route et tout ça. Enfin, mais on se dit, c'est quoi la prochaine étape? C'est quand son enfant, il n'y a pas de place dans l'école, et ben c'est pas grave, il va aller dans les rayons Castorama, ou alors vous êtes malade, mais désolé, il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux, vous avez qu'à aller à l'agence SFR la plus proche. C'est ça ce qu'on est en train de commencer à faire. C'est on est en train de sabrer le service public, enfin c'est pas tout à fait un service public en l'occurrence, mais les inspecteurs, c'est un service public, et on est en train de remplacer ça par une privatisation où c'est des sociétés privées qui doivent s'occuper de faire passer le permis de conduire. C'est extrêmement grave. Alors nous, à Lutte Ouvrière, on est au contraire pour un véritable service public complet du code de la route et du permis de conduire, avec des fonctionnaires d'État partout sur tout le territoire, nombreux, qui puissent s'occuper de ça, effectivement, qui soient formés, qui aient cette responsabilité. Enfin, à une certaine époque, à l'école, quand il n'y avait pas l'école partout, eh ben il y a eu une volonté de l'État de faire en sorte qu'il y ait un instituteur jusque dans chaque petit village pour 4 élèves. Eh ben pourquoi on serait pas capable de faire ça pour le permis de conduire? Pourquoi on serait pas capable de mettre partout des formateurs et des inspecteurs du code de la route et du permis de conduire? Et puis il y a de l'argent pour ça. On parlait des 40 000 milliards de CICE tout à l'heure, 40 milliards de CICE qu'on donne au grand patronat, ça représente des, on pourrait faire des milliers d'emplois avec d'emplois publics avec cet argent. Alors moi je pense qu'il faut un véritable service public du code de la route et que l'État il doit mettre la main à la poche pour ça.
Bon, alors moi, pour conclure, j'aimerais dire que ces dernières années, on a eu droit à la droite de Sarkozy, qui a imposé tout un tas de mesures anti-ouvrières. On a eu le droit à la gauche de Hollande, qui a fait exactement la même chose, qui a continué les réformes de Sarkozy sur nos retraites. On a eu la loi Macron, on a eu la loi El Khomri. Et qu'aujourd'hui, on va avoir les deux en même temps. Voilà. On va avoir les plus arrivistes de la gauche et les plus arrivistes de la droite qui vont gouverner ensemble contre les travailleurs. Alors nous, ce qu'on veut dire dans tout ça, c'est bien sûr qu'il faudra pas se laisser faire. Et le drapeau qu'on veut porter, c'est celui d'une opposition, mais pas de n'importe quelle opposition, d'une opposition ouvrière qui vienne des travailleurs. Et donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais m'adresser bien sûr à tous ceux qui ont voté pour Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle, et je leur demande bien sûr de renouveler leur geste en votant pour ma candidature, et aussi plus largement à tous ceux qu'on a rencontrés, et en fait ils sont très nombreux, qui se disaient touchés par ce que Nathalie Arthaud pouvait dire dans cette campagne présidentielle, mais qui nous disaient « oui, mais là, il va falloir que je vote utile, je vais voter pour un candidat qui peut gagner ». Bien moi j'appelle ceux-là aussi, ceux qui ont été touchés par ce que disait Nathalie Arthaud, à voter pour Lutte Ouvrière cette fois-ci, parce que vraiment, faut être convaincu que se défendre contre les mesures de Macron, ça viendra pas d'un groupe parlementaire. C'est pas avec un député de plus, un député de moins, ou même 10 ou même 30, qu'on empêchera Macron de gouverner avec ses lois ou par ordonnance au service du grand patronat. Et pour nous, la seule opposition qui peut permettre de résister, c'est l'opposition des travailleurs, ce sont des luttes sociales, ce sont des manifestations, des grèves, et c'est pour ça qu'on veut continuer à dire dans l'élection et à l'avenir, tout ce que les travailleurs ils ont déjà dit dans la rue en défilant contre la loi El Khomri. Donc on veut continuer à faire ça et on appelle tous les travailleurs qui veulent pas se laisser faire à voter pour nos candidats.